Bonjour à tous. Nous bénissons Dieu qui nous donne la grâce et le privilège d'être là en ce jour et de parler de sa part. Nos remerciements et toute notre gratitude aussi à l'endroit de notre pasteur ainsi que de son épouse, maman Gisèle, qui est présente, pour cette marque de confiance. J'aimerais que nous puissions aujourd'hui ouvrir nos Bibles dans le livre de Deux Rois. Nous lirons une longue histoire, une très très longue histoire, seulement 19 versets. Deux Rois chapitre 5, ça sera notre texte de base. Nous compléterons quelques textes après. Une belle histoire en plein Ancien Testament, une très belle histoire de la guérison d'un homme de guerre. Je lis Deux Rois, chapitre 5, à partir du premier verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie à Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ?» Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi. » Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. » Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sous la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permet que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Amen. On va s'arrêter là pour la première lecture. J'aimerais que nous puissions lire Luc chapitre 4, le verset 27. Luc chapitre 4, verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager cette histoire tirée de l'Ancien Testament. Il s'agit d'un homme de guerre, un homme fort, un homme puissant. Dans la capitale de la Syrie de l'époque, Damas, qui est d'ailleurs resté jusqu'à aujourd'hui, dans cette capitale, il y a un homme de guerre, un homme puissant qui est célébré. Ils reviennent de la guerre et ils sont adulés par la foule. Les hommes chantent, les femmes chantent, les hommes acclament un grand vainqueur. Un homme très puissant. Un homme qui avait l'habitude de gagner les combats. Un homme qui avait l'habitude de remporter les combats. Un homme qui avait l'habitude d'aller en guerre et de revenir, parce que il est une chose que d'aller en guerre, mais il est une autre chose que d'aller en guerre et revenir. Naaman était un guerrier, un homme fort. Quand les gens le regardaient, il donnait envie de devenir militaire. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de personnes. Quand vous regardez ce qu'ils font, ils vous donnent envie de devenir comme eux. Naaman inspirait le respect. La population acclamait Naaman. Et en ce jour-là, probablement, Naaman revenait de la guerre. Les foules le célébraient, les hommes et les femmes scandaient. « Oh, bravo, vous êtes des grands soldats !» Mais au fond de son âme, c'était un homme triste. Le verset 1 nous dit qu'il était un héros. Il était fort, il était vaillant, et la Bible a introduit un mot, « mais, il était lépreux. » Il était fort, il était considéré, il était apprécié, mais Naaman avait quelque chose de négatif. Quelque chose qui contredisait. Le mot mais introduit, souvent c'est une conjonction qui introduit la contradiction. Qui veut dire que malgré tout ce que l'on dit, il y a quelque chose de négatif. Aujourd'hui, j'aimerais partager un message intitulé « La restauration de Naaman ». La restauration de Naaman. Un homme, quand vous le regardez, vous avez l'impression que c'est un gros guerrier, c'est un homme qui a réussi dans la vie. Vous avez l'impression qu'il a tous les diplômes et tous les mérites qu'il faut. Quand vous le regardez, il porte à envier. Quand vous le regardez, vous avez envie de dire, oh là là, j'aimerais devenir comme cet homme. Mais cet homme, quand il se regarde lui-même, il sait que malgré tout l'héroïsme que je présente, je suis atteint d'une maladie. Et une maladie honteuse, la lèpre. Nous allons voir au travers de la parole de Dieu comment est-ce que le Seigneur non seulement guérit Naaman au niveau de son corps, parce que la maladie de Naaman n'était pas qu'un problème de lèpre, mais il va rencontrer le Seigneur. Il va avoir une intelligence changée, il va être brisé, mais il va repartir avec une relation avec le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. J'aimerais donc vous encourager, je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas ce que vous vivez, et je ne sais pas quel est le « mais » qui s'attache à vous. Je ne sais pas quel est le « mais » qui s'attache à votre réalité, à votre vie. Lorsqu'on parle de vous, quel est le « mais » que l'on peut mettre? Et plus, lorsque vous parlez de vous-même, quel est le « mais » qui vous ajoutez? Moi, je connais des « mais ». Je connais des « mais » qui sont individuels, mais je connais aussi des « mais » qui sont collectif. Que ne dirions-nous pas de ce grand pays, ce grand Congo? On l'a appris depuis l'école primaire, scandale géologique, mais il y a un grand mais, il y a un mais qui nous accompagne. Mais, nous avons connu des hommes qui étaient riches, élevés en dignité, mais des pervers, occupant des postes les plus élevés, des fonctions les plus grandes, les hommes s'inclinent pratiquement devant tel lorsqu'elle s'approche de personnes, mais des coureurs de jupons, des hommes, quand vous les regardez de jour, vous avez l'impression que ce sont des grands hommes, mais la nuit, ils vont entrer dans des petites maisons, des féticheurs, pour aller chercher des fonctions, des postes dans l'administration publique, dans les fonctions les plus élevées. Mais, mon frère, ma sœur, il y a des mets qui nous accompagnent des fois dans la vie. Mais pour Naaman, c'était un mets, mais un mets qu'il cachait. Il pouvait bien le cacher avec son armure de guerrier. Lorsque Naaman portait ses habits de guerrier, personne ne pouvait voir qu'il était lépreux. Lorsqu'il avait porté sa casquette, personne ne pouvait voir. Combien de gens ne cachent-ils pas ce qu'ils ont de négatif? Je ne sais pas combien de temps vous réussirez encore à cacher. Nous le verrons en méditant la Bible ce matin, combien la lèpre était une maladie dangereuse et honteuse. Mais nous parlerons aussi de ces sept personnes, sept comme chiffre sept, sept personnes qui ont joué un rôle capital dans le rôle de restauration, dans la restauration de Naaman. Il y a d'abord la petite fille, l'esclave. Une fille anonyme, on ne nous donne même pas son nom. On ne nous dit même pas qui est-ce qu'elle était. On ne dit pas qu'elle s'appelait Marie-France, Angélique. Non, il n'y a pas de nom. On dit seulement une jeune fille esclave. La jeune fille esclave rapporte à Naaman, par son épouse, qu'elle connaît quelqu'un. Il y a l'épouse de Naaman qui lui dit ce que la jeune fille avait prononcé comme mot. Et puis, ces mots vont être rapportés par Naaman au roi, probablement Ben-Hadad, qui était à l'époque Ben-Hadad II, roi de Syrie, qui à son tour va faire une lettre à Joram, le roi de Samarie, et qui à son tour va faire arriver le message. Du moins, le prophète Élisée va apprendre ce qui s'est passé dans la cour royale et va lui demander de l'envoyer, le malade, si je puis dire ainsi. Et puis, il y a le serviteur d'Élisée et encore les serviteurs de Naaman qui vont le raisonner. Cette belle histoire ressemble beaucoup à l'histoire du salut et à l'histoire de la vie de nous tous, bien-aimés. Nous cachons des fois des faiblesses derrière des grands signes extérieurs. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cachez derrière votre belle veste, derrière votre belle démarche, derrière votre apparence de quelqu'un qui a réussi la vie et réussi dans la vie, derrière tout ce que vous pouvez présenter comme talent artistique, comme art oratoire, derrière tout ce que vous pouvez montrer et démontrer de votre science et de votre intelligence, quel est le mais? Quel est le mais? De quoi avez-vous honte? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez si facilement? Naaman, c'était un homme dans lequel cette dualité vivait régulièrement. Il était fort, il était vaillant, mais il était lépreux. Il était lépreux. Et il a cherché certainement la solution. Il a cherché à être guéri. Il est allé, j'imagine, chercher des médecins en Syrie. La Syrie, il faut le dire ici, était un grand peuple, était une grande nation. Et l'est encore jusqu'à aujourd'hui. C'est parmi les sociétés qui ont conservé beaucoup de leurs valeurs et où le système éducatif aujourd'hui en 2022, et encore plus élevé que quelques pays d'Europe. C'est un pays qui était très riche et célèbre. Et au moment où ce texte est écrit, la Syrie avait dominé Israël et les Israélites étaient sous la domination des Syriens. Ils étaient des esclaves, on va dire ainsi, de la Syrie, mais ils avaient signé un pacte de paix. Et dans ces pactes de paix, la Syrie restait l'organe qui gouvernait. Mais dans la Syrie, vivait un homme malade, un homme de guerre, un grand guerrier, mais quand même malade. J'aimerais faire une similitude ou quelques parallèles entre la maladie dont souffrait Naaman, la lèpre, et le péché. Soit dit en passant, la lèpre n'est pas le péché. Je ne dis pas ici, et je ne peux jamais l'affirmer parce que la Bible ne le dit pas, que la lèpre c'est le péché. Mais il y a des grandes similitudes entre celui qui est atteint de la lèpre, entre la manière dont la lèpre se transmet et commence, et la manière dont le péché sévit. Je vais essayer d'en donner quelques-unes, peut-être j'en ai beaucoup dans mes textes, je vais essayer de donner quelques-unes. La première des choses, la principale, vous pourrez lire à la maison, Lévitique chapitre 13, le verset 2. Là, la Bible mentionne, je ne lirai pas le texte, la Bible dit que lorsque la lèpre commence, ça commence juste par une petite tache. Ça commence par une toute petite tache. Et la science révèle que le temps d'incubation, le temps entre le temps où vous attrapez la bactérie et où vous développez la maladie, ça peut aller de 5 ans jusqu'à 13 ans. Donc quelqu'un peut avoir attrapé la bactérie en 2022, il manifeste la maladie en 2032. Mais ça commence par une petite tache. Ainsi en est-il du péché. Le péché commence par des fois une petite tache. Alléluia, vous êtes avec moi? Une petite tâche. Ça commence pas toujours par des grands péchés. Vous commencez pas directement. Non, c'était qu'une gentille secrétaire. Ce jour-là, vous a demandé votre stylo. Après, vous avez décidé d'aller la raccompagner. Et puis après, vous avez commencé à faire des messages. Et puis après, vous avez trouvé qu'elle était jolie. Ça n'avait commencé que par un bonjour, monsieur le professeur. Et puis le professeur, de professeur, c'est devenu chéri. J'ai été choqué moi-même, je l'ai vécu. Je ne parle pas d'une histoire qu'on m'a racontée. J'ai travaillé il y a quelques années sur un projet avec un ami qui était à l'époque chef des travaux à l'université. Nous sommes arrivés et pendant que nous étions dans la salle d'attente, il y a une jeune fille qui était très mal habillée, vraiment très mal habillée. On croirait que c'était une prostituée qui s'était trompée de pièce. Alors un ami demandera à la jeune fille, mais tu t'habilles comme ça pour venir voir l'enseignant? La jeune fille carrément, elle répond sans gêne, elle dit non, moi je les cherche pour mes points, mais c'est lui qui ne me dit rien. Bien aimé, il y a des gens qui sont mauvais, qui sont déjà abîmés. Comme le disait un humoriste français, il y a des gens qui sont déjà des accidents en train de chercher un endroit pour se produire. Mais ça commence par des gentillesses. Ça commence jamais grand. Le péché, ça commence jamais grand. Ça commence petit, petit. J'insiste, homme, femme, toi qui m'entends, le péché, ça commence petit. Quand ça commence, deux fois, tu sens même pas que c'est le péché. C'est des collègues qui te disent, écoute, nous tous on fait ça. Tu peux raturer. Non. Quelqu'un m'a même dit un jour, bon, facture les anini, facture les affichés. En lingala, pour dire, une facture, ce n'est qu'un fichier. On peut saisir ce qu'on veut dessus. Ça commence petit. Vous commencez par 10 dollars, vous commencez par 10, demain vous en volerez 10 millions. Ça commence petit, par une petite envie de s'amuser. Le diable est un méchant, le diable est un mauvais, si tu lui donnes la main, il prendra ton bras. Il n'est pas ton ami. Toi qui joues et t'amuses encore avec le péché, comme la lèpre, j'aimerais insister, le péché, il commence petit. Et puis, il commence à prendre de l'ampleur. Dans ma jeunesse, j'ai eu à lire une histoire d'un homme qui était guerrier, qui était allé dans la chasse. Il avait ramené un lionceau. Cette histoire est restée toute ma vie. Il a ramené un lionceau dans son village et il a commencé à l'élever comme si ce fût un chaton. Le lionceau grandissait et puis devenait un lion. Et puis on a commencé à remarquer les gens disparaissaient dans le village. Des moutons disparaissaient, des chèvres. Et les gens commençaient à se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, le lionceau est devenu un lion. Les faiblesses que nous nourrissons finissent toujours par grandir. Le péché, quand il vient, il n'est jamais grand, il vient petit. Toi qui aujourd'hui peut-être n'es pas, on va dire, sur les projecteurs, j'aimerais insister, mon frère, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais j'aimerais insister. Peut-être que Dieu ne t'a pas encore positionné socialement, positionné dans des postes où les gens te voient. N'oublie pas, les faiblesses que tu entretiens grandissent avec toi. Les faiblesses que tu ne combats pas, ça va grandir avec toi. Et quand tu vas devenir grand, tout le monde va remarquer que ce grand homme, voilà l'état qui l'accompagne. Voilà pourquoi nous avons besoin de chercher Dieu. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, alors que je parle, que vous avez une petite tache de lèpre, de la lèpre du péché, Jésus est là pour les purifier. Alléluia. Deuxièmement, j'aimerais dire, la lèpre isole de la société. Au temps d'Israël, vous pourrez méditer à la maison tous les chapitres 13 et 14 de Lévitique. Lorsque quelqu'un était atteint de la lèpre, on l'isolait, on l'enlevait de la ville. Et il lui était recommandé lui-même, s'il marche en cours de route, de crier qu'il est lépreux. Donc quand il est en cours de route, lui-même doit vous dire, « Oh, je suis lépreux, je suis lépreux, je suis lépreux !» Pourquoi ? Parce que c'est la même chose que le péché fait. Le péché finit toujours par nous isoler, nous éloigner du Seigneur. Et le plus souvent, nous éloigner aussi des autres. Troisièmement, la lèpre est contagieuse. Autant en est-il du péché qui se transmet. Les gens qui se fréquentent, au fur et à mesure qu'ils se fréquentent, ils deviennent mauvais. La Bible ne dit-elle pas que les mauvaises compagnies finissent toujours par corrompre les bonnes mœurs? Parce que c'est une grande contagion que la contagion du péché. Mais une des choses graves, c'est que les lépreux deviennent insensibles et perdent des membres. Le dictionnaire dit même qu'à un moment où les nerfs du lépreux ont été totalement calcinés, détruits par ces bactéries, il peut même mettre son bras dans le feu, il ne sent rien. La lèpre détruit les nerfs et on va dire pose une grande confusion dans le système nerveux. À telle enseigne qu'on devient insensible à la douleur. Là où il a la plaie, vous pouvez taper, il ne sent rien. Malheureusement, il y a des hommes comme ça et des femmes comme ça dans la société. Des hommes et des femmes, ils sont tellement versés dans le mal. Des fois, quand vous leur demandez même de changer de vie, ils ne trouvent pas comment ils vont changer, parce qu'ils ne trouvent même pas que ce qu'ils font est mal. Ils sont devenus insensibles. Ils peuvent consommer le salaire de toute l'entreprise en une soirée dans la boîte de nuit, et ça ne lui fait rien de regarder qu'il y a des pères de famille qui souffrent, qu'il y a des veuves, il y a des orphelins. Non, il s'en fout. C'est son plaisir qui compte. Et il est insensible. Et ça me dépasse les gens qui font du mal. Ils sont insensibles. Ils mettent le poison dans la tasse de l'autre. Ils ne s'occupent même pas de penser, mais est-ce que sa femme, comment il s'y va? Il s'en fout. Il ne voit que son intérêt. Homme, où es-tu et où vas-tu? Ne sommes-nous tous pas atteints de la lèpre? Regardez comment les gens se battent pour les positions. Regardez jusqu'à quel point les hommes peuvent aller, et malheureusement, même les hommes d'église, le poison, insensible, on dit même shalom, shalom, alléluia. Que Dieu ait pitié de nous. La lèpre du péché nous a atteints. Nous sommes devenus insensibles, et nous perdons des parties de notre corps. Nous prions que Dieu nous guérisse, comme il a restauré Naaman, qu'il nous restaure aussi en ce jour. La lèpre tue. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Romains 3, 23. Mais deux grandes choses pour terminer, c'est que les lépreux ne pouvaient jamais se guérir lui-même. Selon la Lévitique, le lépreux devait nécessairement, pour être guéri, aller chez le sacrificateur, qui allait détecter on va dire dans les mots modernes aujourd'hui, analyser, vérifier s'il était réellement lépreux. Et si le sacrificateur le confirmait, il y avait un rite. Il ne pouvait jamais se guérir lui-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus guérit de la lèpre. Autant Jésus guérit et délivre du péché. J'aimerais qu'on acclame pour Jésus. Amen. Jésus guérit de la lèpre. Jésus guérit de la lèpre. On sait que tu ne peux pas te sauver toi-même. On sait que tu ne peux pas te changer toi-même. Tu t'es battu des années. Tu t'es battu pendant des dizaines d'années. Donne à Jésus ton cœur. Donne à Jésus l'occasion de changer ta personne. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 8, alors que Jésus est en train d'envoyer ses disciples évangélisés, il leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. C'est-à-dire que cette maladie était tellement connue et courante dans le moment où Jésus était sur la terre, pendant le ministère de Jésus sur la terre. Si bien que Jésus dit à ses disciples, quand vous allez, vous ressuscitez les morts, vous priez pour les malades. Les lépreux sont des malades, mais il insiste pour les lépreux, il crée une autre catégorie. Il dit, pour les lépreux, purifiez-les. Alléluia. Je ne sais pas de quelle lèpre vous êtes atteint. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cachez derrière votre masque. Je ne sais qu'est-ce que vous cachez derrière votre grand sourire. Je ne sais quelle est la lèpre qui vous a atteint, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, nous apporterons ça aux pieds de Jésus, celui qui a restauré Naaman. Amen. J'aimerais proclamer trois grandes vérités qui vont nous servir de leçon dans le processus de guérison, dans le processus de restauration de Naaman. La première vérité, c'est que il ne faut sous-estimer personne. Ne sous-estimez personne. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, ne sous-estimez personne. Ne sous-estimez personne, voisin. Ne sous-estimez personne. Il y a une jeune fille qui est au centre de cette histoire. Et comme la Bible seule a la capacité de donner de telles histoires, une héroïne mais anonyme. Quelqu'un qui a tout joué, mais de petite taille. Je ne sais pas si elle avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, lorsqu'elle a été enlevée de sa patrie. Mais cette petite fille, nous dit la Bible, elle avait entendu certainement la maîtresse de la maison se plaindre. Elle a peut-être entendu l'épouse, Madame Naaman, en train de pleurer. Peut-être qu'elle a entendu Naaman lui-même revenant de la guerre et dire, « Ah, chérie, les gens me prennent pour un grand homme, mais regarde, regarde !» Cette histoire, cette saleté, c'est en train de traverser mon corps. Et à un moment où le patron n'était pas là, la toute petite fille est allée voir la patronne et dit, « Maman, le pays d'où je viens là, je connais un homme. Il y a un homme de Dieu. Si le papa va là-bas, cet homme va le guérir. » Oh, gloire à Dieu pour les parents qui instruisent leurs enfants sur le chemin du Seigneur. Ne dites pas, ils sont encore trop tôt, c'est trop tôt pour les amener à l'église. Ne dites pas, ils sont trop jeunes pour les intéresser aux choses de Dieu. Commencez tôt. Il est écrit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et il ne s'en détournera pas lorsqu'il sera grand. Papa n'était plus là. Maman n'était plus là. La Bible ne nous dit pas ce qu'on avait fait à sa famille. Avait-elle été assassinée? On ne sait pas. Avait-elle été déportée toute seule? On ne sait pas. Mais ce que je sais, papa n'était plus là, maman n'était plus là, mais le Dieu de papa, le Dieu de maman était avec cette jeune enfant. Et cet enfant avait eu le temps de recevoir cette certitude. Comment à son âge on peut avoir autant de foi? Comment à son âge on peut être certain? Elle ne le dit pas pour guérir. Non, la petite fille est certaine. Elle connaît ce Dieu-là. Elle ne connaît pas seulement l'homme de Dieu, mais elle connaît le Dieu de l'homme de Dieu. Parce que dans nos églises, beaucoup de gens connaissent l'homme de Dieu, mais ne connaissent pas le Dieu de l'homme de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils connaissent les programmes, ils connaissent les cantiques, ils connaissent les pages, tel chant, ça se trouve dans 248. Pour nous qui nous sommes convertis à l'époque où on chantait encore avec les recueils, chant des victoires, mais c'était une compétition. Moi j'ai cherché à connaître à partir de « À Dieu soit la gloire » quand tu ouvres la première page jusqu'à la dernière. Bien aimé, tu peux connaître tout ça, mais tu connais pas Dieu. Tu peux être assis dans les meilleures positions à l'église, mais tu ne connais pas Dieu. Cet enfant avait une relation non seulement avec l'homme de Dieu, mais avec Dieu. Elle avait la foi, elle avait la certitude. La deuxième chose que j'aime dans cette petite fille, c'est qu'elle n'a pas marchandé sa foi contre les souffrances qu'elle a subies. Ce n'est pas parce qu'on m'a fait du mal, j'ai la solution, je ne dirai pas. D'ailleurs, moi, on m'a séparé de ma famille. Je sais. Moi, je sais. Vous savez, il y a ce genre de personnes. Moi, je sais ce qu'il faut, mais je ne dirai pas. Non. Je me souviens là où je travaillais à l'époque, il y a des collègues qui étaient dans des combines. Et puis un jour, on a demandé, mais pourquoi vous avez dit, ah! Bafou Tarabiso Mabé, en lingala, ça signifie on paye mal, alors on récupère. Vous rigolez, mais il y en a certainement qui réfléchissent comme ça. Mais à la borne, il n'y en a pas. Vous êtes sûr avec moi? Non, il n'y en a pas. Ici, là, en tout cas, il n'y en a pas. Les gens qui se disent, oh non, on nous paye mal, on va récupérer ça. Ils utilisent les biens de la société jusqu'à les défoncer, les abîmer. Parce qu'ils ne m'aiment pas, moi aussi je vais leur rendre du mal en retour. Bien-aimés, le Seigneur nous a dit dans les évangiles que si on vous frappe sur la joue gauche, il faut donner. Ce n'est pas une histoire de joues et de gifles, c'est une histoire d'action et de réaction. Jésus veut dire, si on te fait, on te pose une mauvaise action, garde toujours une bonne réaction. À action mauvaise, bonne réaction. À action négative, bonne réaction. On te fait du mal, bonne réaction. On te donne des injustices, bonne réaction. Ce n'est pas ta maman qui t'élève, c'est la femme de papa qui te fait des canailles, bonne réaction. Tu n'es pas chez vous, tu subis des injustices, bonne réaction. Le DG te donne des mauvais salaires, bonne réaction. Je ne sais pas où tu te trouves, mon frère, ma sœur, toi qui m'entends ce jour, je t'en supplie. Bonne réaction. Un homme a écrit, et cette phrase j'aime beaucoup, Richard Wurmbrand, c'était un Roumain qui a écrit beaucoup de livres. C'était un homme persécuté. Pour ceux qui ont peut-être lu, il publiait des écrits qu'on appelait « L'aide aux églises martyrs ». Il est décédé il y a peut-être 20 ans de cela. Cet homme-là était un pasteur. Il avait rencontré Jésus après avoir été atteint de tuberculose. Lorsqu'il a connu le Seigneur, il a commencé à prêcher l'évangile, on l'a mis en prison. On ne peut pas compter le nombre d'années qu'il a fait en prison, mais Dieu a fait grâce qu'il soit libéré. Mais dans la prison, alors qu'il souffrait des atrocités, il a eu plusieurs fois envie de mal réagir. Comme des fois vous sentez que vous avez raison de mal réagir. Pour tout ce que j'ai subi, je peux l'insulter. Pour tout ce que j'ai subi, en tout cas je peux le gifler. Il dit ceci, la rose que l'on piétine se venge en donnant de son parfum, car c'est tout ce qu'elle a à offrir. La rose que l'on piétine se venge. La seule vengeance de la fleur rose, c'est de vous donner son parfum. Quand vous l'écrasez, parce que la fleur rose ne sait rien faire d'autre que vous donner le parfum. Un chrétien devait être tel une fleur rose. Vous l'écrasez, sa seule façon de se venger, vous parfume. Et vous parfume. Mon frère, ma sœur, cette petite fille nous enseigne, même si nous subissons des torts et des atrocités, restons chrétiens. Alléluia. La troisième chose, et peut-être la chose importante sur laquelle j'aimerais insister, que nous apprenons de cette jeune fille,
ce qu'elle fait de l'évangélisation.
Elle est un type du peuple qui est en alliance, mais qui ne se trouve plus à l'endroit de la terre de l'alliance, mais qui parle du salut qu'il y a dans le Dieu de l'alliance. Elle se fait messagère, elle devient une messagère, elle ne se tait pas et ne ferme pas la bouche. Combien d'entre nous, nous fermons la bouche? Nous avons des hommes et des femmes qui sont en train de souffrir. Nous avons des hommes et des femmes qui vivent dans le péché. Nous avons des hommes et des femmes qui sont dans des atrocités. Vous, vous connaissez le Seigneur. Vous, vous connaissez Dieu. Le silence de l'Église tue plus que les armes à feu, plus que la bombe atomique. Le silence de chrétiens envoie les gens non pas seulement dans le cercueil, mais il les envoie dans la condamnation éternelle. Cette jeune fille n'avait pas fermé sa bouche. Alléluia. Elle n'a pas fermé sa bouche. Elle a témoigné. Là où vous êtes, là où vous travaillez, là où vous étudiez, là où vous vivez, quel est le témoignage que vous donnez, mon frère? Il y a un amant qui est atteint de la lèpre et qui pourrait trouver le salut si vous vous ouvrez la bouche. Est-ce que nous pouvons prendre la décision, nous aussi, de commencer à témoigner? La première leçon ou la première vérité, je disais, c'est de ne jamais sous-estimer les personnes que Dieu met à côté de nous. Ne sous-estimez pas les gens qui sont à côté de vous. Vous ne savez jamais par qui Dieu peut passer. Vous ne savez pas par qui le Seigneur peut passer. Et pour ce cas d'espèce, Dieu passe par cette petite fille. C'est vrai que plus loin, il y a d'autres personnes, mais je vais m'arrêter juste à parler de cette jeune fille. La deuxième vérité, c'est qu'il ne faut jamais, ne jamais sous-estimer la grâce de Dieu. Il ne faut jamais sous-estimer la grâce de Dieu. Des fois, lorsque on a été malade, on a vu son corps en train de se détruire, pour ce qui est de la lèpre en particulier, une tache peut rester pendant une année. Ça reste fixe, ça bouge pas. Vous essayez tous les produits, tous les savons, ça marche pas. Vous essayez toutes les piqûres, ça bouge pas. Et puis à la quatrième, cinquième année, ça commence à se répandre. Et plus loin, la lèpre va changer le visage. Ça va défigurer la personne. Oh, comme le péché défigure les gens. Combien de gens, quand vous les regardez, le péché les a détruits. Je disais donc, lorsque vous avez souffert comme ça, vous ne croyez même plus. Vous devenez hésitant. Ce que j'aime en Naaman, c'est le courage qu'il a eu en écoutant l'histoire d'une petite fille. Elle a dit, ah, en tout cas, j'ai tout essayé ici en Syrie. Je suis allé chez les grands médecins. Je suis allé me faire examiner. C'est le meilleur des meilleurs. Mais bon, pourquoi pas essayer? Il va voir son roi. Il dit au roi, Ben-Hadad, en tout cas, moi, ton serviteur, j'aimerais aller trouver grâce. Ah, en Israël, du moins en Samarie en ce moment-là. Il dit, mais tu veux partir, mais je t'accompagnerai, je vais te donner des chevaux, je vais te donner des chars, je n'irai pas personnellement, mais tout l'arsenal du royaume sera avec toi. Lorsque vous lisez votre Bible, vous êtes choqué, autant que moi, par la quantité des biens avec lesquels Naaman voyage. Si vous convertissez cela dans la monnaie d'aujourd'hui, il voyage avec au moins 1,2 million de dollars. Il voyage avec des lingots d'or. Un lingot d'or est estimé à peu près à 60 000 dollars aujourd'hui. Et lui, il en a plusieurs. Il a de l'argent et puis il a des habits des fêtes, des habits des cérémonies. Les habits des cérémonies de l'époque, ça, des fois, ça contenait du diamant. Donc, ce monsieur voyage avec, on va dire, des paracommandos, mais aussi, il a de l'argent en liquide. Et il se disait certainement, quand je vais arriver en Samarie, quand on va me poser des questions, puis bon, je vais donner de l'argent. Il arrive, le prophète le choque.
Le prophète ne sort même pas. Ah, j'aime le prophète Élisée, il a fait quelque chose de magnifique. Il ne sort même pas. Donc, il ne vient même pas dehors. Je vais mentionner quatre parmi les erreurs que Naaman a eues. Premièrement, c'est qu'il pensait qu'il devait acheter sa restauration. Il pensait que la restauration de sa santé, c'est quelque chose qu'il pouvait acquérir avec l'argent. Bon, je viens quand même avec l'argent. Mon frère, ma soeur, la grâce ne s'achète pas. La grâce que l'on vend n'est plus la grâce. Parce que la grâce, par définition, c'est une faveur imméritée. Un homme a écrit que Dieu ne peut pas vendre la grâce parce que Dieu est trop riche pour vendre et l'homme est trop pauvre pour acheter au prix de Dieu. La grâce ne peut pas être vendue. On ne peut pas vendre la grâce. On ne peut pas vendre la guérison. On ne peut pas vendre la délivrance. On ne peut pas vendre, je me parle à moi-même et à nous qui prêchons, on ne peut pas vendre les services et les prières à l'église. Ou quand les gens viennent pour que le pasteur prie pour eux, on dépose d'abord l'offrande. Et s'il n'y a pas l'offrande, on ne prie pas pour toi. Si tu as donné 1 000 $, on va traîner un peu plus, on va prier 5 jours. Si tu donnes 1 000 francs, on prie pour toi 5 secondes. Oh, que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. La grâce ne se vend pas, la restauration ne s'achète pas. La deuxième chose ou deuxième erreur de Naaman qui montre comment il sous-estimait la grâce, c'est son orgueil. Naaman est imbu de lui-même. Écoutez, Naaman ce n'est pas n'importe qui. C'est un chef d'état-major. C'est un haut gradé. C'est pas n'importe quel général. Vous savez, même dans l'armée, les généraux n'ont pas tous les mêmes niveaux. Ce n'est que quand vous voyez des leurs, vous croyez, ils sont tous généraux. Oh, il y a général et général. Naaman est au sommet du sommet. Il a la confiance, le verset 1 nous a dit, il a la confiance du roi. Vous savez, cette confiance, souvent quand on est élevé, c'est pas que la confiance, c'est aussi la méfiance. Le roi l'a traité bien parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut faire, c'est Naaman. Et avec tous les pouvoirs qu'il a, non, qu'on les soigne bien, qu'on les soigne. Et Naaman est bien soigné aux soins du gouvernement. 1 000 000 $ pour les soins de santé. Il a de l'argent, il est escorté, il a des militaires à son service et il est imbu de lui-même. C'est quand même un homme reconnu dans la société. Alors quand il arrive, remarquez comment il dit, « Je me disais, il sortira vers moi. » C'est de l'égocentrisme. Quand même, c'est moi Naaman. Je suis pas n'importe qui. Il se présentera lui-même. Il cherchait des honneurs. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. C'était un religieux et il attendait un rite parce qu'il disait, il agitera sa main sur la place parce qu'il était un religieux. Il s'attendait à ce qu'il y ait un rituel. Et voyez plus loin son orgueil. Il commence même à comparer les eaux du Jourdain. Il dit, est-ce que dans mon pays, il n'y a pas de fleuve? Pourquoi il peut se moquer de moi? C'est pas parce que je viens chercher la guérison ici. Soit dit en passant, le fleuve Jourdain est connu parce qu'elle a des eaux boueuses. C'est des eaux sales. C'est comme si on te demandait de te laver dans la boue. Alors il regarde, il dit, moi j'ai des piscines, j'ai plein de choses. Pourquoi je dois venir me baigner ici? L'orgueil et le complexe de supériorité. Troisième erreur de Naaman, il a dénigré la simplicité du message de la grâce. Le message était simple. C'est d'ailleurs ce que son serviteur va lui rappeler. Si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu n'allais pas faire? Si on t'avait dit, cours, fais le tour de la ville 50 fois, tu allais faire. Si on t'avait dit, non, rampe à 4 pattes, tu allais faire. Si on t'avait dit de faire des culbutes et des chutes, tu allais faire. Mais on t'a dit seulement, va te laver. Un geste est simple, que même un enfant de 3 ans peut faire. Entre 7 fois, tu comptes jusqu'à 7. Tu entres, tu sors 1. Tu entres, tu sors 2. Mais Naaman était touché au fond de lui, parce qu'il trouvait cela trop simple. Il disait, ce monsieur se moque de moi. Moi, j'ai une maladie grave comme ça. Il croit qu'en faisant des gestes simples, je vais être guéri. Oh homme, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu se cache dans la simplicité. Et Jésus était un homme qui prêchait un évangile de simplicité. Quand il parlait aux gens de sa génération, il leur parlait d'un homme qui élevait des animaux. Il leur parlait de quelqu'un qui avait un champ. Le message de l'évangile était partie des choses les plus simples. Ramenons la simplicité de l'évangile. Ramenons Dieu dans ces choses simples. L'Église en a besoin et les hommes en ont besoin. Mais Naaman ne voulait pas de choses simples. Lui, il pensait qu'on allait lui demander de faire des gros sacrifices, de sacrifier 400 chevaux, ou bien de vendre 1000 vaches. Aujourd'hui encore, Dieu te dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Simple, 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 car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Simple. On n'a pas dit qu'il faut aller à Jérusalem d'abord. On n'a pas dit qu'il faut aller s'incliner au pied de quelqu'un, d'un homme, de Dieu qui te mette la main. Oh, simple. Aujourd'hui, là où tu te trouves, si tu crois en Jésus et tu meurs, tu vas au ciel. Simple, simple, simple. Mais les hommes ne veulent pas de ce message. Ils le trouvent trop simple. Mais bien aimé, nous n'avons pas un autre message à prêcher. Ce message est simple. Il a sauvé des hommes, il a sauvé des femmes, il a sauvé des générations. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Tes péchés seront pardonnés et tu passeras l'éternité avec Dieu. La quatrième chose ou quatrième erreur de Naaman, c'est le manque d'obéissance. Lorsque vous lisez le texte, il est dit que Naaman va se fâcher. Il était devenu furieux. Le verset 11 dit, Naaman fut irrité. Il s'en alla. Il a pris le chemin contre elle. Il a dit, ah non, vous vous moquez de moi, je rentre chez moi. Eh, Naaman, ne sous-estime jamais la grâce de Dieu. Suis les directives de Dieu. Ce que Dieu te demande de faire par le prophète, il sait pourquoi tu dois le faire. Amen. Troisième vérité, il faut obéir à la parole de l'Éternel pour être restauré ou pour maintenir la restauration. Beaucoup ont été guéris. Je me souviens encore de cette phrase où Jésus, guérissant quelqu'un, lui dit, va mais ne pêche plus, ne retourne plus à ta mauvaise vie. Beaucoup ont reçu la bénédiction de Dieu, mais ils n'ont pas su la conserver parce qu'ils ne marchent pas dans l'obéissance. Les directives étaient simples. Tu vas te laver dans le Jourdain, pas ailleurs. Mais tu le fais cette fois. Tu te plonges, même pas laver, c'est trop. Tu entres une fois, tu sors. Deux fois, tu sors. Trois fois. Et puis, à la septième fois, Naaman se regarde. Mais vous savez, moi j'aime imaginer quand je lis la Bible, le suspense. Je me dis quand c'était au sixième tour, c'est sûr lui-même commençait à regarder s'il y a encore les plaies. Et l'émotion de toute l'assistance, tout le monde regardait, il ne restait plus que... C'est comme quand on tire au pénalty pendant un match de football et que le gardien de l'autre camp a déjà attrapé le ballon. Vous devenez un mauvais intercesseur, vous priez même Seigneur que l'arbitre n'entre pas. Vous priez pour que leur joueur joue mal. Le suspense était fort. Eh, il a fini. Il y en avait 7. Il a utilisé les 6 jetons. Il ne reste que 1. Mais le Dieu de la Bible ne ment jamais. Le Dieu de la Bible ne ment jamais. Il avait dit par le prophète 7 et ça sera 7. Obéis tout simplement aux directives. Ne cherche pas à les commenter. Si ça vient de Dieu, obéis. Si ça vient de Dieu, exécute. Naaman se plonge et quand il ressort, la Bible dit que sa peau était redevenue comme la peau d'un jeune enfant. Oh, donc il n'est même pas redevenu comme un papa de son âge. Les gens de sa génération, quand ils le regardaient, oh, Naaman, mais tu es comme un garçon de 7 ans. Gloire à Dieu. C'est ça la restauration de Dieu. Dans la restauration de Dieu, vous ne retrouvez pas seulement votre état initial, mais encore plus. Dieu vous ajoute. Dieu vous ajoute. Je prie que Dieu restaure quelqu'un, qu'il restaure votre santé. Et quatrièmement, quatrième vérité, le miracle produit l'adoration et la crainte de Dieu. Lorsqu'un Naaman est guéri, il rentre auprès du prophète, il rentre. Seigneur, donne-nous encore ces gens de miracles et ces gens de serviteurs qui ne travaillent pas pour l'argent, qui ne travaillent pas pour être payés et qui ne travaillent pas pour être vus, mais qui travaillent pour que les miracles rendent gloire à Dieu. Aujourd'hui, on assiste tellement à des cérémonies, des miracles où l'homme de Dieu lui-même se met en vedette. Moi, je suis fatigué de ces personnes-là qui doivent prophétiser, comme ils appellent ça. Je le mets entre guillemets sur la vie des gens en public, sur les problèmes de couple des gens en public, sur des problèmes... Non, mais mon frère, vous ne savez pas qu'est-ce que vous créez comme problème aux autres. Ce message-là du Seigneur, tu ne pouvais pas le lui dire à côté. Non, il faut le dire au micro pour que les gens sachent que toi, tu es un prophète. Il faut le dire. On oublie comment est-ce que vous humiliez même la personne. Après l'avoir vu dans votre église, cette personne est humiliée. À la maison, humiliée. Au travail, humilié. J'ai connu l'histoire d'une jeune fille qui était passée dans une de ces églises et puis rentrée au travail. Elle dit, ah, toi tu es sorcière, tu viens plus au travail. Où est-ce que la Bible a dit qu'il faut les chasser du travail? Est-ce que la sorcellerie est dans le code pénal? Ou dans le code du travail? Malheureusement, nous, les hommes d'église, nous qui prêchons, nous jouons souvent aux vedettes. Voulant montrer, faire un peu de spectacle. Malheureusement, les églises aussi, nous-mêmes, les églises, nous aimons ça. On aime les spectacles. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde ces choses-là. Le vrai miracle ne conduit pas au pied de l'homme de Dieu, mais au pied de Dieu. Il vient adorer. Il demande même, il dit, comme il était, c'était dans l'Ancien Testament, il dit, bon, regarde, je vais rentrer chez moi, que je prenne même la terre d'Israël, je vais faire chez moi, même à la maison, je vais commencer à adorer votre Dieu, le Dieu qui m'a guéri là. C'est ce que produit le miracle. Le miracle doit pousser quelqu'un vers Dieu. On ne peut pas célébrer les miracles sans que les hommes se tournent vers Dieu. Si les miracles qui se font ne changent pas les vies des gens, c'est pas Dieu qui est là. Parce que le miracle authentique de Dieu ramène les cœurs vers Dieu. C'est d'ailleurs le but pour lequel, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, Dieu a donné la puissance des miracles. C'est pour que les cœurs des gens soient convaincus qu'il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui sauve, il y a un Dieu qui délivre. Alléluia. Tournons-nous vers Dieu à chaque fois que nous connaissons ce succès, le succès de la guérison ou de la restauration. Naaman a été guéri dans son corps, Naaman a été brisé dans son orgueil, dans son homme intérieur. Naaman a été guéri dans sa relation avec Dieu. C'était une restauration à tous les niveaux de son être. C'est pas seulement le corps qui a été guéri. Il pouvait mourir même demain, mais dans le cœur, il était retourné avec le Dieu d'Israël. Un jour, on apportait un lépreux à Jésus dans Marc 1, les versets 40 à 42. La Bible dit, un lépreux vint à lui et se jetant à ses genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aujourd'hui encore, Jésus nous touche. Élisée, le prophète de l'Ancien Testament, n'avait pas pu toucher le lépreux. Parce qu'il ne pouvait pas toucher les lépreux. Mais Jésus touche les lépreux. Jésus touche les pécheurs. Jésus peut venir jusque là où tu es. Jésus peut venir jusque dans là où tu souffres. Et aujourd'hui, comme cet homme, j'aimerais que nous puissions prier et que tu dises à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je ne sais pas quelle est la lèpre que vous traversez. Individuellement, collectivement, en famille, en couple. Je ne sais quelle est la lèpre qui vous frappe. Je ne sais quelle est la lèpre qui frappe votre vie. Mais en ce jour, j'aimerais que nous puissions regarder Il y a plus qu'un prophète de l'Ancien Testament, il y a Jésus. Il y a plus qu'une rivière, un fleuve, le Jourdain, il y a Jésus qui délivre et qui répand ses eaux de vie en ce lieu. Jésus peut te toucher. Jésus peut te guérir. J'aimerais que nous puissions élever nos voix et que chacun de nous parle à Dieu. Librement. Parce que vous savez ce dont vous souffrez. Vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez qu'est-ce que vous cachez. Vous savez quel est le mais. Quel est le mais qui s'applique à votre vie. Vous savez quel est le mais qui s'applique à la réalité de votre personne. Ce que vous cachez. Ce que vous cachez si facilement.
Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi.
Emmanuel est là.
Ce matin pour te toucher, te guérir. Emmanuel, Emmanuel est là,
ici présent avec moi.
Emmanuel est là,
Emmanuel est là.
Je ne sais qu'est-ce que vous traversez, mais en ce matin j'aimerais prier pour quelques catégories de personnes. Peut-être que vous vous êtes retrouvés comme un homme atteint de la lèpre du péché. En ce matin, alors que nos yeux sont fermés, je vous demanderai de vous lever. J'aimerais que nous puissions prier avec vous. Parce qu'au-delà de toutes les guérisons qui peuvent se produire, la guérison la plus profonde, c'est celle de votre homme intérieur. C'est réparer votre relation avec Dieu. Merci pour ceux qui se mettent debout. Ne vous gênez pas, ne vous gênez pas. C'est la lèpre du péché, vous tombez, vous faites des efforts, vous retombez. Vous n'arrivez pas, vous criez comme cet homme. Si tu le veux, rends-moi pur. Jésus est là, prêt à te toucher. La deuxième catégorie des personnes avec qui nous aimerions prier, c'est ceux-là qui sont atteints d'une maladie. Nous voulons prier pour ceux qui sont malades. Nous croyons qu'Emmanuel est là et qu'il peut guérir. Je ne sais quelle est la maladie qui vous dérange. Par la foi, par un geste, de foi, je me demande de vous lever, c'est le seul acte de foi que je vous propose aujourd'hui. L'acte de foi pour Naaman, c'était de se plonger. Mettez-vous debout pour montrer à Dieu que vous croyez que vous pouvez être guéri. Alors que vous êtes debout, j'aimerais insister sur une troisième catégorie pour ceux qui sont atteints de maladies de peau. J'aimerais qu'on prie particulièrement pour ceux qui ont un problème de peau. Pour cela, je vais demander, si vous êtes debout, de poser la main sur votre cœur. Pendant que papa Bassoubi vient, je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te présente mon frère et ma sœur, celui qui a un problème avec le péché, celui qui s'est éloigné de toi. Seigneur, pardonne. Pardonne à celui qui est tombé sous la puissance du péché. Cela a commencé comme une petite faiblesse. Ça a commencé comme une petite tache, mais finalement, ça a envahi tout le corps. Pardonne. Toi, tu as résolu le problème du péché à Golgotha. Tu as pris nos péchés. Tu as pris même la condamnation que nous méritions pour nos péchés. Mais là, sur la croix, tu as aussi pris nos maladies. C'est pour ça qu'en ce matin, nous proclamons la guérison de Jésus. La guérison de Jésus sur les corps malades. La guérison de Jésus sous les parties du corps malade, que ce soit visible ou invisible, que ce soit interne ou externe, Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu circules dans ses rangs et que tu guérisses un homme, une femme. Je prie que tu guérisses aussi mon frère, ma sœur qui a un problème sur sa peau et que de manière particulière, tu le purifies comme toi seul peux le faire. Dans le nom de Jésus.